Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invitée aujourd'hui, Claire Villiers. Je suis à la fois militante à Agir Ensemble contre le chômage, AC. Je suis syndicaliste à la NPE, au SNU ANPE, et je suis membre de la Fondation Copernic. Et dans ce cadre, j'ai participé à l'écriture d'une note sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'UNEDIC, l'indemnisation du chômage. Eh bien, justement, on ne fera pas comme dans un journal récent de France 2 qui évoquait le même jour la construction de villas à l'américaine en France et le défilé d'un grand couturier. Effectivement, aujourd'hui, nous, on est là pour parler du chômage parce que je crains fort que ça nous soit un problème important de l'indemnisation des chômeurs et puis surtout des atteintes récentes qui ont été portées à cette indemnisation. Alors, pour paraphraser un journaliste qui était dans son temps bien connu, l'indemnisation du chômage, comment ça marche ?
Eh bien, on pourrait dire que ça marche mal. Alors, je vais essayer d'abord de décrire peut-être un peu le système, parce que c'est vrai que quand on n'y a pas été confronté directement, on ne sait pas. Alors, pas confronté, ça veut dire qu'on n'a jamais été au chômage, tant mieux. Ça veut dire qu'on a toujours eu un CDI ou qu'on est passé de contrat en contrat, tant mieux. Ou ça veut dire qu'on a un statut public et que donc on n'est pas confronté normalement, en tout cas pour le moment, à des possibilités de licenciement, sauf si on est précaire de la fonction publique, et il y en a de plus en plus, et ils sont concernés par l'indemnisation du chômage. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, même si leur régime n'est pas celui des ACEDIC. Alors d'abord, pour faire une petite précision de mots, peut-être, on dit des fois l'UNEDIC et les ACEDIC. En fait, c'est la même chose. L'ACEDIC, c'est la structure locale, l'antenne ACEDIC, et l'UNEDIC, c'est la direction générale, on pourrait dire. C'est l'Union nationale. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour faire un tout petit peu d'histoire, la question de l'indemnisation du chômage se pose depuis la fin du 19e siècle, puisque quand les gens n'ont pas de boulot, il faut bien les aider à survivre. Ça a été beaucoup traité en termes d'assistance, c'est-à-dire que les municipalités, quelquefois mais rarement les caisses syndicales, donnaient des petits subsides pour que les gens meurent pas trop de faim. Ce qu'il faut dire, là c'est très important, c'est que dès cette époque, donc le début du XXe siècle, il y avait deux logiques. La logique des mairies, des départements, de l'État, on pourrait dire, avec des mots d'aujourd'hui, qui était effectivement de l'assistance, c'est-à-dire empêcher les gens de sombrer complètement dans la pauvreté. Et puis une autre logique, qui était la logique syndicale de l'époque, qui était particulièrement mise en place par ce qu'on appelait les bourses du travail, c'est-à-dire des lieux où il y avait à la fois on pouvait faire des revendications, où on faisait de la formation, de la culture, enfin bon, c'est un des endroits qui étaient très intéressants, qu'à mon avis il faudrait d'ailleurs aujourd'hui réactualiser, où les gens pouvaient se rencontrer, etc. Et donc cette stratégie syndicale, c'était que d'offrir une indemnisation du chômage qui disait deux choses, qui disait d'abord que le chômeur n'est jamais responsable du fait d'être au chômage. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission peut-être, toute la bataille idéologique, enfin aujourd'hui, mais ça fait 20 ou 30 ans que ça dure, c'est pour faire porter sur les chômeurs individuellement la responsabilité de leur situation. En disant, si vous ne trouvez pas de boulot, c'est de votre faute. Et ça, c'est catastrophique. Parce que bien évidemment, quand on est licencié, en général, on ne l'a pas choisi. Quand on est en fin de contrat d'intérim, en général, on ne l'a pas choisi, etc., etc. Bon. Donc la première chose, c'est donc dire très clairement que si on donne une indemnité, c'est parce que les chômeurs ne sont pas responsables et que on applique par là même la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui d'ailleurs est reprise dans la Constitution de 58. Bon, je suis pas une fanatique de la Constitution, mais gardons-en ce qui est bon, qui repose sur trois pieds de ce point de vue, qui dit que chacun a le devoir de travailler. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre de dire qu'on a le devoir de travailler, mais ça, c'était une affirmation de la première Déclaration des droits de l'homme pendant la Révolution française, et qui était en fait contre les nobles qui ne travaillaient pas, qui vivaient aux dépens de tout le monde. Moi, je pense qu'il faudrait d'ailleurs appliquer ce devoir de travailler aux rentiers, parce qu'aujourd'hui, il y a deux catégories qui ne travaillent pas. Il y a ceux qui ne l'ont pas choisi, c'est les chômeurs, et puis il y a ceux qui l'ont choisi, c'est les rentiers, et ceux qui s'engraissent sur toute la spéculation, etc. Mais cela, on n'en parle jamais. Il faut rappeler que Keynes, qui n'était quand même pas un économiste particulièrement gauchiste, disait qu'il faudrait euthanasier les rentiers. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, cette stratégie syndicale qui visait à surtout dire... Bon, et le deuxième élément de cette stratégie syndicale, c'était donner de quoi survivre de manière à ce que les chômeurs ne soit pas obligé d'accepter n'importe quel travail. Et ça, c'est totalement d'actualité, parce que l'enjeu autour de l'indemnisation du chômage, et on le voit tous les jours, mais on y reviendra là aussi peut-être par la suite, c'est que c'est donner le moins possible pour que les gens acceptent n'importe quoi. En gros, la philosophie du MEDEF, du gouvernement de droite, et hélas, des fois un peu de gauche aussi, c'est que un chômeur affamé est plus enclin à accepter n'importe quel salaire, n'importe quel contrat, n'importe quelle condition de travail. Et donc, ce que je veux dire dans cette première intervention, c'est que la question de l'indemnisation du chômage, ça ne concerne pas que les chômeurs eux-mêmes, ça concerne tous les salariés. Parce que s'il y avait une indemnisation du chômage correcte, c'est-à-dire, nous, on pense que personne ne devrait avoir moins que le SMIC, parce que si le SMIC, c'est le minimum pour vivre, c'est vraiment pour survivre d'ailleurs, quand on a un boulot, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose quand on a quand on est au chômage. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pour dire, il faut que les gens bossent pour avoir de quoi survivre. Hein. Nous, on part des besoins. Si les gens, ils ont besoin de manger, de payer la cantine pour les mômes, etc., bon, voilà. Et donc, s'il n'y avait pas d'indemnisation en dessous du SMIC, qui accepterait d'être caissière à Carrefour pour moins de la moitié du SMIC? Qui accepterait d'être travailler chez McDo pour un salaire de misère? Qui accepterait d'être chez Pizza Hut en se menaçant d'avoir des accidents de travail tous les jours, etc., etc., etc. Et j'insiste là sur un premier point, c'est que les principales victimes de cette affaire, c'est les femmes. C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui les contrats précaires, mais encore plus les contrats à temps partiel, qui peuvent être des CDI, mais où on a un revenu partiel, et donc on a une précarité terrible. Enfin, je veux dire, l'UNSEE, le Secours catholique, tout le monde dit qu'aujourd'hui, un SDF sur trois est quelqu'un qui a un boulot. C'est-à-dire qu'on est revenu à la situation de 54 quand l'abbé Pierre avait lancé son appel, et où c'était il faut loger les gens, mais c'était des gens qui avaient un boulot. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui sont dans la rue. Moi, je vais raconter une anecdote. On m'a raconté, dans un aéroport, une syndicaliste discutait avec une hôtesse d'accueil, donc une nana a priori qui était trilingue, dans une compagnie aérienne, etc. Elle lui demande son adresse pour lui envoyer du matériel syndical. La fille lui répond « Je dors à l'aéroport, je dors dans ma voiture, je me mange à l'aéroport et je me douche à l'aéroport parce que j'ai un temps partiel et que je ne peux pas me payer un appartement. »
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Claire Villiers. Il y a un petit truc que je ne comprends pas bien en réalité par rapport à l'indemnisation du chômage. C'est lié à la durée dans laquelle on a cotisé, quand on travaillait. Et ensuite, c'est dégressif, c'est plus dégressif. Enfin, je patauge complètement sur la... Simplement, complètement, ça marche comment vraiment, pratiquement
Alors, pratiquement.
Qui donne quoi comme sous et...
Donc, voilà. Donc, le régime qu'on a aujourd'hui, c'est un régime qui date de 1958 et qui, donc, est basé sur des cotisations. C'est-à-dire, c'est un peu comme la Sécu. Bon, avec quelques petites différences. Je rappelle juste par rapport à ça que quand la Sécurité sociale a été mise en place en 1945, le programme du Conseil national de la résistance, c'était un plan général de sécurité sociale assurant à tous les salariés et à leurs familles des revenus lorsqu'ils sont incapables de se les procurer par leur travail. Et donc, normalement, donc il y a la sécu pour la maladie, il y a les accidents de travail, il y a la retraite, toutes choses dont on voit aujourd'hui qu'il faut vraiment les défendre, bref. Il y a les allocations familiales. Et puis, il y aurait dû avoir une branche chômage dans ce régime de la sécurité sociale. Ce qui, évidemment, aurait été bien meilleur parce que le rapport de force de 45 était un rapport de force bien meilleur que celui de 58. Toujours est-il que ça n'a pas été mis en place et donc, on pourra discuter peut-être sur pourquoi, mais aujourd'hui, le système il fonctionne comment? Donc, quand vous êtes salarié dans le secteur privé, vous cotisez à un régime donc d'assurance chômage donc il y a une partie patronale et une partie salariale. Au départ, les cotisations, il y avait une petite partie salariale et une grosse partie patronale qui actait justement du fait que c'était l'entreprise qui avait la responsabilité du chômage. Il faut savoir qu'il y a une vraie discrimination parce que là, ça rend compte de cette inégalité du contrat de travail, c'est-à-dire qu'on ne touche le chômage que si on est licencié ou en fin de contrat. Si on démissionne, on n'y a pas droit. En tout cas, on peut y avoir droit au bout de 4 ou 6 mois, mais si on a été un chômeur soumis, qui vient chercher du travail, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce droit à la mobilité, l'entreprise peut faire ce qu'elle veut. Elle peut rendre mobile les salariés en les licenciant. Par contre, le salarié qui, lui, aurait envie d'aller travailler ailleurs, de se former, etc., lui, il n'a pas le droit de démissionner. Donc ça, c'est une vraie discrimination. Donc quand on se retrouve au chômage, on touche une allocation chômage qui est, en général, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, de 57% de son ancien salaire. En général, c'est hors prime. Ça peut être plus si on avait un petit salaire, mais enfin bon, on c'est autour de ça. Et on le touche pendant une durée déterminée qui est liée au temps pendant lequel on a cotisé. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant 82. Avant 82, c'était comme pour la sécurité sociale, c'est-à-dire que on avait cotisé, on ouvrait des droits et la durée était la même pour tout le monde. Bon, alors elle n'était pas très très importante, hein, mais bon, c'est, pour prendre une image qui parlera peut-être plus à nos auditeurs, aujourd'hui, la CEDIC, c'est comme si quand on tombe malade, on regardait combien d'années on a cotisé à la sécurité sociale et qu'on vous disait vous avez droit à tant de temps d'indemnité journalière. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a le droit jusqu'à ce que le médecin dise vous êtes consolidé, vous pouvez reprendre le boulot. Bon, donc imaginez si on disait bah vous avez un cancer, vous avez droit à 6 mois d'indemnité journalière, puis après vous démerdez, vous reprenez le boulot, vous crevez, bon, etc. Donc le chômage, c'est ça. Hein. Donc, et tout le jeu consiste à ce que, à indemniser le moins longtemps possible, hein, surtout si on a eu des boulots précaires. Bon. Et depuis maintenant plusieurs années, à chaque fois qu'il y a une négociation, c'est quel est le seuil qui va déterminer ce qu'on appelle l'ouverture des droits. Bon. Aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir ouvrir des droits, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 22 derniers mois. Avant, il fallait avoir travaillé 4 mois dans les 18 derniers mois. C'est très important parce que ça concerne particulièrement les jeunes. Les jeunes dont on sait aujourd'hui que le mode d'entrée sur le marché du travail se fait quasiment exclusivement par la précarité, jusque vers 26, 27, 30 ans, et qui donc, pour un certain nombre d'entre eux, cotisent, parce qu'on cotise, mais on n'ouvre jamais de droits. Donc on n'est jamais indemnisé.
Oui. Il faut que ça soit 6 mois continu.
Alors non, 6 mois dans les 22 mois. C'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire au chômage, l'agent ACEDIC qui vous reçoit regarde qu'est-ce que vous avez fait dans les 22 derniers mois, et si vous totalisez 6 mois de cotisation, il vous ouvre le droit à une certaine durée de chômage.
Et si j'ai travaillé 20 ans et que j'ai 22 mois de chômage, je suis pas indemnisé après les 22 mois?
Comment ça?
Si on s'aperçoit que finalement, dans les 22 derniers mois, j'ai pas travaillé, mais j'ai travaillé avant.
Il y a très longtemps, vous ne serez pas indemnisé.
Non,
il faut avoir 6 mois dans les 22 derniers mois. Tout à fait. C'est absolument indispensable. Alors, les durées de chômage, les durées de cotisation, bon, c'est effectivement ces 6 mois. Bon, après, il y a des problèmes par rapport à l'âge. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que c'est plus difficile de retrouver un travail quand on a plus de 50 ans, plus de 55 ans. Donc là, vous allez avoir des durées d'indemnisation du chômage qui vont être plus longues. Bon, mais c'est ce qu'on va voir dans la situation actuelle, c'est que le gouvernement comme le patronat voulant que les gens travaillent plus longtemps, alors c'est bien de le dire, mais de toute façon les entreprises elles s'en foutent, et ben ils ont décidé d'indemniser moins longtemps les gens qui sont âgés. Et donc on va se retrouver avec des gens qui n'auront absolument plus d'indemnité. Bon. Donc vous avez on vous ouvre un droit, et ce droit il est soumis au fait que vous soyez actif dans votre recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre la CEDIC qui ouvre ce droit et l'ANPE qui, surtout depuis la signature de cette convention qui s'est appelée le PAR, le plan d'aide au retour à l'emploi, où dans le cadre de ce PAR, vous êtes soumis à tout un tas d'obligations de recherche d'emploi. Alors en fait, ce PAR, il reprend des obligations qui avaient été déjà mises en place depuis 91 dans le cadre d'une loi, qui était une loi signée, à mon avis, hélas, d'ailleurs, par Martine Aubry, qui est une loi assez sévère, qui dit que on n'a pas le droit de refuser un emploi à temps partiel, même si on cherche un emploi à temps plein. On n'a pas le droit de refuser un emploi si la baisse de salaire par rapport à son ancien contrat est de moins de 30%. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre un salaire à 30%. On n'a pas le droit de refuser des formations. On n'a pas le droit de refuser le traitement que l'ANPE vous propose. Enfin, il y a toute une série comme ça de choses qui font que cette indemnisation du chômage, non seulement elle est limitée dans le temps, non seulement elle est qu'à peu près la moitié du salaire, mais en plus, elle est soumise à tout un tas de conditions. Et ces conditions, c'est évidemment pour vous faire accepter des emplois dans la norme que les entreprises ont décidé.
Mais le PAR, maintenant, c'est tout le monde est sous le régime du PAR ou c'est un choix de rentrer dans le système du PAR ou de ne pas y rentrer?
Ah, vous avez un choix total. Si vous ne rentrez pas dans le système du PAR, vous n'avez pas d'allocation. Donc c'est très clair parce que en fait, le PAR est un encart qui est. Il y a eu une bataille très difficile pendant cette négociation sur le PAR où en fait, on a en partie gagné. C'est-à-dire que c'est pas un vrai contrat. Bon, mais en même temps, vous êtes obligé de signer ce PAR, parce qu'il est sur la même feuille que votre demande d'allocation. Donc si vous ne signez pas le PAR, vous ne signez pas la demande d'allocation, donc vous n'avez pas d'indemnité.
Et là, c'était Bernard Lavilliers, une chanson de circonstance, Je voudrais travailler. Bah oui, il y en a plein qui voudraient travailler. Et mais il y a encore un petit truc, vraiment, j'ai la comprenette un peu lente apparemment.
Non, si je dois même mal m'expliquer.
Non, c'est... Ou alors je suis complètement intoxiquée par les autres médias, parce que j'avais cru comprendre que le PAR, c'était une super affaire, parce que ça permettait que les indemnités ne soient plus dégressives. Donc c'était vraiment tout bénéfice, là, non? C'est pas ça.
Alors, d'abord, elles n'ont pas toujours été dégressives. Elles ne l'étaient que depuis 92, ce qui était déjà une vraie régression. Et je rappelle, hélas, que cette dégressivité a été mise en place par la CFDT, enfin le patronat, bien sûr, mais que c'est en échange de cette dégressivité que la CFDT, qui est une grande confédération syndicale, donc c'est tout à fait catastrophique qu'elle prête sa main à ce genre de choses, c'est en échange de ça qu'elle a eu la présidence de l'UNEDIC, donc de la dégressivité. Donc ça n'a pas toujours été dégressif. Et donc, effectivement, ce qui a été passé comme accord en 2000, c'est on supprime la dégressivité, donc les allocations garderont la même durée, mais en échange on fait le PAR. Alors le PAR, on nous l'a vendu dans les médias classiques comme le droit pour tous les chômeurs d'avoir enfin la capacité de faire un projet individuel et d'être accompagnés dans leur projet, etc. Alors deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que ça, normalement, c'est le rôle du service public de l'emploi, la NPE, etc., l'AFPA, de faire ça tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir un droit à cet accompagnement et au projet individuel. Et puis la deuxième remarque, c'est que ça veut dire un plan d'aide au retour à l'emploi, mais pour un retour rapide à l'emploi. Et ce qu'on voit avec le PAR, c'est que maintenant, par exemple, pour tous ceux qui veulent faire des formations, les ACEDIC ne payent plus aucune formation au-delà de 6 mois. Si vous voulez faire une formation d'infirmière, d'aide-soignante, des choses dont on a absolument besoin, si vous voulez préparer un concours administratif, reprendre des études, etc., tout ça, c'est devenu totalement impossible. C'est-à-dire que, sous prétexte d'organiser le suivi, bon, donc le projet, c'est de la foutaise totale. Il n'y a pas de projet. Il y a uniquement de l'adaptation à apprendre un nouveau logiciel pour les nanas qui sont secrétaires, apprendre comment fonctionne une machine dans un atelier, etc. C'est de l'adaptation stricte au processus de travail. Et le patronat a décidé de se désengager complètement de la qualification de la main-d'œuvre. Et le drame, c'est qu'un certain nombre de conseils régionaux qui ont la compétence de la formation professionnelle sont en train de faire la même chose. Donc, j'attire l'attention des auditeurs qui sont aussi des électeurs. Cette question de la formation professionnelle est essentielle dans les compétences des régions. Donc ce PAR, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi parce que, en échange de cette non-dégressivité, eh bien, on fait croire aux chômeurs qu'ils auront un suivi individualisé, donc l'agence les convoque, l'agence et la NPE, dans le cadre d'un PAP, le plan d'aide personnalisée, d'action personnalisée, mais où on propose des choses, mais en même temps, on voudrait bien que... c'est pas la faute des salariés de la NPE, ça n'a rien à voir avec ça, bien évidemment, mais on voudrait bien que les gens prennent, en particulier, et Fillon, en ce moment, n'arrête pas de s'exprimer là-dessus, quand il dit qu'il y a 300 000 offres d'emploi qui sont pas pourvues. Ben oui, mais c'est lesquels? C'est simple, c'est toujours les mêmes. C'est le commerce, c'est le bâtiment, c'est la restauration, c'est-à-dire tous les endroits où, par exemple, ils ont décidé qu'on n'appliquerait pas les 35 heures, c'est-à-dire qu'ils sont revenus sur des accords qui avaient été signés. C'est là où on gagne, où il y a des équivalences horaires, où donc quand vous travaillez 50 heures, vous êtes payé même pas le SMIC. C'est là où on est épuisé, enfin des amplitudes absolument incroyables, les endroits où les gens veulent pas aller. Ils ont bien raison de pas vouloir y aller. Et si on diminue l'indemnisation du chômage, si on soumet les chômeurs à un contrôle extrêmement important, ben ça empêche dans ces secteurs-là d'avoir une quelconque résistance sur ces conditions d'emploi dégradées. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'indemnisation du chômage, ça sert à faire accepter aux salariés, ceux qui sont au chômage, mais aussi ceux qui sont dans les entreprises, une norme d'emploi totalement dégradée. Et donc, je me répète, mais ça concerne vraiment tout le monde. C'est-à-dire que dans les boîtes, combien de fois on n'a pas entendu, mais si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte, il y en a 10 000 qui sont dehors. Si ces 10 000, ils avaient le SMIC comme indemnisation du chômage pour une durée beaucoup plus longue qu'aujourd'hui, ben les gens à l'intérieur des entreprises pourraient dire ben la porte est peut-être ouverte, mais les gens ne viendront pas.
Mais quel était l'intérêt Alors, ma vraie question, c'est ça. Quel était l'intérêt du patronat dans l'affaire de proposer le PAR?
Ah, bah, c'est très simple. Alors, c'est très simple aujourd'hui parce qu'on a été long à décoder. Ah. C'est qu'il faut se rappeler qu'en 2000, il y avait une petite reprise. Et donc, et moi, je l'ai entendu de la bouche de responsables de grandes entreprises où ils disaient, Dans les entretiens d'embauche, les chômeurs, enfin ceux qui veulent des boulots, posent des exigences, des questions sur des choses dont on n'avait plus du tout l'habitude d'entendre parler, à savoir est-ce qu'il y a une mutuelle, combien on fait d'heures, est-ce que les temps de transport sont pris en compte, quelles sont les conditions de travail, etc. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle ils ont voulu absolument mettre le holà immédiatement. Et donc, évidemment, on s'en prend dans ces cas-là, hein, on s'en prend au plus petit de la classe. Le plus petit de la classe, dans ces cas-là, c'est le chômeur. Et donc, ils se sont dit de manière, je crois, extrêmement perverse, si on arrive à mettre des conditions d'indemnisation du chômage suffisamment restrictives, avec suffisamment de contrôle pour que les gens soient obligés d'avoir un retour rapide à l'emploi, on a peut-être une petite chance que ces exigences diminuent. Le problème, c'est que, entre-temps, parce que ces gens-là sont totalement incapables de gérer dans la durée, hein, c'est après moi le déluge. Bon, et donc, ils sont, en même temps qu'ils faisaient le part, ils ont diminué les cotisations, puisque à l'époque, on avait un peu d'excédent, enfin, le régime avait un peu d'excédent. Et donc, ils ont diminué les cotisations patronales et salariales. Bilan de l'opération, 2 ans après, on s'est retrouvé dans une situation catastrophique, parce qu'il y a eu un retournement de conjoncture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le part, c'est le contrôle, l'impossibilité de poser des exigences et la baisse de l'indemnisation du chômage.
Et oui, donc c'était Des Sous et des Hommes avec Claire Villiers, mais elle a tellement de punch qu'on va la garder pour la semaine prochaine. Krasucki, en son temps, si je me souviens bien, disait « Il n'y a pas d'arme de coercition contre les travailleurs plus, comment on pourrait dire, plus forte que le chômage ». Apparemment, ça a bien l'air d'être le cas. Donc à la semaine prochaine pour voir eh bien, comment on s'attaque encore de plus en plus aux indemnités. Je pense que tout le monde est au courant, enfin du moins je l'espère, de la situation depuis le 1er janvier. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai reçu une petite lettre de l'association de Coluche, des Restos du Cœur, qui dit que depuis janvier, bizarrement, hein, c'est comme c'est bizarre les choses de la vie, il y a de plus en plus de gens qui se présentent là-bas, et notamment des familles, et notamment dans les endroits... Enfin, dans ce qu'ils peuvent proposer pour les bébés et les enfants. Voilà, bonne semaine, à la semaine prochaine.